On va parler de ce texte génial, bizarre, hétéroclite, mystérieux, ésotérique un peu. Ésotérique au sens où il y a une initiation qui se fait à travers ce texte, et Quignard aime bien l'idée d'initiation, je crois. Ça, c'est un truc dont je voulais parler aujourd'hui, mais on peut l'attaquer dès maintenant. Vous vous souvenez, il y a cette espèce de micro-histoire de Mélusine, la fée Mélusine, c'est dans le traité, la troisième partie. C'est 96-97. Une fois par semaine, Mélusine s'enfermait à clé dans la chambre interdite et y prenait un bain. Elle redevenait poisson. Elle s'ébattait dans son cuveau. Elle chantait. Monsieur de Lusignan voulut voir. Il perça le mur de plomb et aussitôt son épouse disparut en criant, dans un grand coup de queue dans le cuveau, dont il fut aspergé. Point. Voilà. L'histoire de Mélusine, elle est là en deux paragraphes de quatre lignes. Il n'y a pas beaucoup de connecteurs logiques. Ils ne fonctionnent pas à répétition. Mais on sait où on est. Pourquoi, par exemple? Parce qu'il utilise cuveau, qui est un vieux mot, qui d'ailleurs est pas forcément très sexy, mais qui fonctionne. On sait que c'est autour du cuveau. Il le dit deux fois, voilà. Bon, c'est bouclé. Et la scène est parfaitement cinématographique même. Voilà, à méditer. Mais bon, moi je fais partie de cette famille d'auteurs un peu perchés qui préfèrent les approches comme la tienne, où on commence par la langue, que les approches où on commence par la scène. Bon, eh ben, je me lance dans Quignard, hein, en tremblant un peu. Je vais faire semblant de m'occuper en discuter ce qu'on va étudier tout à l'heure. Pourquoi je tremble? Bah parce que je pensais que ce serait plus facile cette année en m'attaquant à l'équilibre. Le problème, c'est que du coup, j'ai choisi que des monstres. Alors, l'un des trucs pratiques, c'est déjà rapprocher les monstres les uns des autres. Ça les rend plus familiers. Donc, Michon et Quignard, c'est à peu près la même génération. Il faut commencer par ça. C'est un peu bête, mais ça a quand même du sens. Michon est né en 45, comme ma maman, ici. Quignard est né en 48. Autrement dit, bon, voilà, y a ce rapport à l'après-guerre, hein, y a des tas de choses de ce côté-là. Quignard en parle avec le Havre détruit où il est né. Ça veut dire aussi que c'est des auteurs qui ont bouffé de la critique littéraire à pleine bouche et qui en ont conçu à la fois une idée très haute de la littérature et très coupable. On ne pouvait pas écrire n'importe quoi, on ne pouvait pas faire du fleur bleu. Il fallait soit que ce soit communiste, soit que ce soit structuraliste, etc. etc. Voilà, ils écrivent depuis ces interdits-là aussi, tous les deux. Du coup, ils n'écrivent pas un mot qui n'est pas sa raison d'être, et ça produit des auteurs énormes. C'est des auteurs mondiaux. D'ailleurs, Quignard, en ce moment, il travaille pour recevoir le prix Nobel. J'ai mes entrées, c'est des bruits de couloir. Mais je veux dire, c'est cette stature-là. Donc, c'est une autorité littéraire qui est comparable à Michon, c'est-à-dire immense, et la popularité en plus. Quignard a ça, via le cinéma, c'est pas pour tous ses bouquins, hein, mais il a réussi à en placer certains, notamment grâce au cinéma. Tous les matins du monde, Depardieu. Voilà, des centaines de milliers d'entrées, en pleine vague ascendante du baroque en France, tout le monde se met à écouter du Marin Marais. Deux ans plus tard, Quignard démissionne de tous ses postes parce qu'il est riche et qu'il peut se permettre, parce que les droits cinématographiques, ça fait que vous pouvez écrire les livres que vous voulez. Bon, donc vous comprenez que quand je m'attaque à Quignard après Michon, j'ai un peu de timidité, il y a cette envergure, et puis en plus c'est lui aussi un auteur qui compte particulièrement dans ses murs, les murs de l'abbaye de la Grâce, puisque c'était l'invité du banquet, l'invité d'honneur, hein, en 2007, autour de La nuit sexuelle, qui est un de ses livres les plus marquants. 2007 étant aussi l'année du fameux attentat, dont vous avez peut-être entendu parler, à l'huile de vélomoteur, sur les livres d'ombre blanche, là-bas, dans le cellier, il y a encore les traces. Hein. Et voilà, c'était l'année de l'attentat, parce que Quignard était l'objet de l'attentat. Bon, un attentat à l'huile de vidange, hein, bon, mais c'est déjà quelque chose quand même. Personne n'est mort, le symbole est fort. Voilà, deux raisons de trembler en me levant, là, et en faisant le beau avec mon nouveau pull. Donc, bah, qu'est-ce que je fais? Je me raccroche à mon thème de la brièveté pour me lancer. Par des moyens différents de Michon, Quignard est tout autant que Michon, un auteur de la brièveté. Quoique son œuvre soit beaucoup plus volumineuse, et ce qui met d'ailleurs un paradoxe en apparence, hein, entre le volume et la brièveté. En effet, même lorsqu'il fait de gros livres, Quignard recourt à une écriture qui est à la fois dense et trouée, qui est devenue en quelque sorte sa signature d'ailleurs. Les phrases sont courtes, lapidaires, voire franchement impérieuses, des fois un peu pontifiantes, hein, faut bien dire. Mm-hmm. Souvent érudites, cinglantes, et puis elles s'ouvrent brutalement sur du blanc. Qu'une sainte Astérix vient ponctuer. C'est un peu comme la course du coyote quand il court après le bip bip et puis qui se retourne dans le vide et qui tâte comme ça avec sa patinard, il écrit un peu comme ça. Une espèce de course et puis on est dans le vide. Et puis on reprend la course. Donc ben, on peut faire des gros volumes comme ça. Parce qu'on écrit bref et dense, on ne peut pas faire des gros volumes. Il suffit d'accumuler ces petites unités flottantes dans du blanc. Et ça, c'est une partie de l'écriture de Quignard. Une autre spécificité de Quignard par rapport à Michon, c'est l'articulation permanente de la fiction et de la réflexion. On l'a dit la dernière fois, Michon n'a publié qu'un seul véritable livre théorique, Le roi vient quand il veut, qui est d'ailleurs un livre d'entretien, c'est de la théorie par le dialogue. Chez Quignard, la réflexion, elle est au moins aussi abondante que la fiction. Et cette articulation, elle peut se manifester d'un livre à l'autre. Par exemple, en 1984, Quignard a sorti Les tablettes de buis d'Apronenia Amitia, qui est une fiction sur une dame romaine. Et en même temps, il publiait un de ses volumes de petits traités, qui sont des bouquins exclusivement théoriques, il y en a 8 volumes. Hein, c'est... Donc, il publie la même année 2 bouquins, un de fiction et un de réflexion. Ça, il sait le faire. Mais ce qu'il sait faire aussi, c'est, à l'intérieur d'un même livre, de mêler de la fiction et de la réflexion. Et c'est justement la caractéristique du livre qui nous occupe aujourd'hui, Le nom sur le bout de la langue, qui est construit autour d'un conte, annoncé comme tel, et dont la troisième partie s'appelle Petit traité sur Méduse, comme une sorte d'annexe de ces 8 volumes exclusivement théoriques, réflexifs, que Quignard a publié par ailleurs. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce bouquin dans notre bibliographie de l'année, parce qu'il condense ces deux formes d'écriture, et que donc c'est une espèce de première étape efficace pour s'approcher de l'écriture du maître. De la théorie, de la réflexion, tout ça en à peine plus de 100 pages, petit texte, grande œuvre. Je reprends la formule du semestre. L'enjeu du jour va consister, en rapport avec cette thématique de la brièveté, à comprendre comment la brièveté seule et le silence qui l'entoure, le blanc, permettent à Quignard de dire ce qu'il doit dire. C'est une écriture obligée. Il n'a presque pas le choix d'écrire comme ça, en fonction de ce qu'il veut dire. Lui, la formule qu'il utilise, c'est qu'il est voué à dire quelque chose. Ça, c'est une formule qu'on trouve dans le petit traité. On va voir quoi. Mais indépendamment de ce quoi, indépendamment de ce qu'il va dire, l'idée principale, c'est ça. C'est qu'il y a des auteurs pour lesquels la brièveté est la seule voie possible. Bon, au-delà de cette thématique annuelle, là, qui nous rassemble pendant quelques mois, je signale aussi la continuité discrète de ce livre avec les tout débuts de l'atelier, Un roi sans divertissement, il y a 2 ans. À travers la référence au Perceval de Chrétien III, qui nous poursuit décidément d'un livre à l'autre, puisqu'il était déjà là dans Michon. Donc le Giono, hein, Un roi sans divertissement, c'est une citation explicite, enfin pas tout à fait explicite, mais bon, pas cachée du Perceval de Chrétien III. Il en était question la dernière fois dans Michon, puis Michon adore Giono et adore Un roi sans divertissement, et voilà ce qu'on trouve. Page 93-94 du traité. Entre le plaisir et le désir, nous veillons. Durant la veille, qui est un rêve diurne, nous écrivons. Nous cherchons des mots. Nous trompons le dénuement en cherchant des mots. Chrétien de Troyes est le seul romancier de notre langue à avoir dénombré dans ses romans, ses énigmes, ses scènes de songeard villant, ses oublis, ses pamoisons, ses distractions ou ses rêves debout. Ses crises de mutisme inopinées, ces moments d'abandon au vide, ces souvenirs confus et qu'on ne parvient pas à débrouiller, en dépit de l'angoisse qui les visite par bouffées, ces stupeurs, ces néants, ces défaillances, ces courtes extases. Dans la neige, Perceval se tient appuyé sur sa lance, pensant qu'il se oublie. Tout à coup, les oies sauvages s'envolent, il y a 3 gouttes de sang dans la neige. Je vous parlais de hasard curieux, moi je suis poursuivi par cette scène depuis que j'ai 17 ans, quand j'ai découvert Un roi sans divertissement. Et on va en partir de cette formule-là de Chrétien III que Quignard rappelle. Il pense tant qu'il se oublie. Il s'oublie, quoi. qui plane. Et Quignard envisage cette scène, ça c'est son interprétation, Deleuze de l'interprétation qu'on avait vue dans un atelier il y a 2 ans. Pour Quignard, c'est un moment de défaillance. C'est un mot très important dans tout le bouquin. C'est un moment de défaillance du héros. Et ça, c'est le phénomène qui hante continuellement les 3 moments du texte, aussi différents soient-ils, une défaillance particulière, verbale, le nom sur le bout de la langue, le langage lorsqu'il échappe. Alors, défaillance, il faut toujours se méfier avec Quignard, tous les mots comptent et ils peuvent avoir différents sens, il faut creuser, aller chercher les étymons. Dans défaillance, il faut entendre la faille, et pas la contre-performance. Le défaut de langue, la défaillance de langage, c'est pas une tare, c'est une chance. C'est une ouverture. Une ouverture à quoi ? Ben, elle laisse la place à une expérience que Quignard juge absolument essentielle, et qu'il va falloir approcher petit à petit, lentement, et qui est, disons, l'expérience de l'infance, de l'enfant, au sens étymologique, de celui qui n'a pas la parole. Infance, ça veut dire privé de parole. Ça, pour Quignard, c'est crucial. Je vais d'abord, après cette introduction, vous proposer une description un peu bête, un peu littérale, des 3 temps du texte. Parce que, je vous ai dit, c'est un recueil composite, ça mérite d'être analysé, ça, déjà. Pourquoi 3 parties aussi différentes sont-elles si différentes ? Qu'est-ce qui les lie ? Ou qu'est-ce qui les rompt ? Qu'est-ce qui maintient de la rupture ? Voilà, un livre composite. Ça commence par « Froid d'Islande », c'est le titre qu'il donne à son premier temps, très court, qui est un extrait de journal de bord, fait d'anecdotes, on va voir, c'est du journal. Ensuite, il y a un conte qui donne son titre à l'ensemble, le nom sur le bout de la langue. La partie centrale s'appelle comme l'ensemble, ça veut dire quelque chose aussi. Et puis, troisième temps, un petit traité qui se déploie autour d'un mythe, celui de Méduse, et accessoirement de Persée. Ce mythe est d'ailleurs raconté à l'intérieur du traité, mais pas au début. Il commence par nous dire petit traité sur Méduse, puis après, j'ai grandi au Havre, c'était détruit, ma maman cherchait ses mots, bon, et puis Méduse, elle est où là-dedans, Méduse, on ne comprend pas. Et puis, il y a un moment où, paf, il raconte l'histoire de Méduse. Ça lui ressemble aussi. Donc, bah, c'est un peu curieux, c'est un peu bizarre, comme je vous disais au début, ce texte, ni chair ni poisson, c'est une espèce d'hybride. Alors, il fait, pour les premiers lecteurs un peu pressés, il fait des effets de continuité, très visibles. Ça s'ouvre sur une glace au café, qui ne veut pas se laisser couper. Il y a une scène inoubliable de Boulez qui vise. Boulez visa. Je trouve ça génial, quoi. Pour décrire le compositeur, le thématicien, quoi. Boulez qui vise un bloc de glace. Et puis, il nous dit, le bloc de glace sauta par terre. Ce qu'on ne pourrait pas mieux dire, l'échec, quoi. Donc, voilà, ça s'ouvre sur cette glace au café qui part dans un plateau de fromage. C'est la première page. Et puis, page 105... Quignard nous dit, voilà, j'ai pas oublié mon début, mon livre est cohérent, même s'il y a plein de petits astérisques. Et on lit, page 105, nous sommes défaillants, blablabla, nous n'avons pas à renoncer, curieuse construction, nous n'avons pas à renoncer l'attrait des glaces au café qui fuit sous les couteaux, nous n'avons pas à renoncer notre désir, ni à l'abandonner à l'âge ou au repos, à la gloire apparente ou au poste, blablabla. Voilà. Juste avant de finir, il me dit, au fait, voilà, je maîtrise mon objet. Hein. Il y a une glace au café au début, il y a une glace au café à la fin. Donc elle glisse, mais quand même, je maîtrise. Donc voilà, premier effet de continuité. Et deuxième effet de continuité, bien sûr, le fait que le conte central donne son titre à l'ensemble. Ça veut dire, j'ai une espèce de foyer rayonnant au cœur de mon livre qui donne sa consistance à l'ensemble. Puisque le truc du milieu peut donner son nom au truc d'ensemble. Il y a un tout dont la substance est dans le conte. C'est ça que ça veut dire, cette espèce de double usage du titre. Bon, voilà, il nous donne de gros effets de continuité. Mais il faut quand même aller y voir dans chacune des parties pour essayer de comprendre de quoi elle est faite. Et puis, est-ce qu'il y a une continuité réelle ou est-ce qu'il y a juste des effets de surface, comme ça, à coup de glace au café et de... Donc je procède par étapes. Première partie du bouquin, Froid d'Islande. Cette partie présente d'abord, à première vue, toutes les caractéristiques du journal. Il y a une première personne qui renvoie à l'auteur. Je m'appelle Pascal Pignard, je vous écris. Il y a des dates, juillet, machin, octobre. Il y a l'année même de 1992. Il y a des faits de vie, qui sont d'ailleurs presque des modalités. Ça souffle sur un dîner. On pourrait être chez les Verdurins, dans Proust, ou une scène comme ça. Ça a l'air de trucs un peu légers au début, quoi. Oui, j'ai dîné avec Boulez, vous comprenez. En fait, c'est ça à la fois, parce que Quignard est vraiment un gros snob, et en même temps, c'est tout de suite très profond et très métaphysique, comme ça, dans une glace au café. Puis... Ce journal, en fait, de journal, c'est un journal de la création, comme dit Nancy Houston. C'est un de ses bouquins les plus intéressants, qui articule la grossesse avec l'écriture d'un bouquin. Pourquoi c'est un journal de la création? Parce que cette partie 1, Froide Islande, décrit la genèse de la partie 2 du conte. Il nous explique comment le conte est venu au jour. Et comment est-ce qu'il est venu au jour? Par un système de double commande. Il y a une commande explicite qui est passée à Michel Reverdy, une compositrice reconnue, c'est une amie de Quignard, de Boulez. Elle a reçu la commande d'un conte musical par un ensemble de Normandie. Du coup, elle a dit Quignard à manger avec une glace au dessert. Et elle lui commande implicitement, là c'est pas écrit, il y a le mot commande pour Michel Reverdy, mais pas pour Quignard. Quignard, on ne commande rien, vous voyez, c'est un seigneur. Donc il n'écrit pas commande, même si c'est une commande en fait. Elle lui commande implicitement l'écriture du livret de ce conte musical au cours du dîner. Et le dîner est tout le temps interrompu par cette glace au café qui saute. C'est-à-dire que pour Quignard, tout est toujours déjà écrit en fait. Puisque ce qui l'intéresse, Quignard, c'est l'origine des choses. C'est à peine lui en tant qu'auteur. Bon, il se trouve qu'au passage, il ramasse les honneurs et qu'il veut le prix Nobel. Mais ce qui l'intéresse, c'est qu'il y a toujours une origine avant lui, une espèce de source de vie dont il est le canal. Bon, en tout cas, c'est comme ça que ça se présente en apparence. Une double commande, Froide Islande. Et puis la suite, après le dîner, là. La suite déroule les étapes de la création du texte et du spectacle. Et en fait... Le texte qu'on va lire est la version complète de ce qu'il avait écrit pour Michel Reverdy et qu'ils ont dû amender ensemble pour la dramaturgie du spectacle. Il nous dit, pour le spectacle, j'ai pas pu conserver l'intégrale de mon texte. Il a fallu qu'on coupe parce que sinon c'était trop long, c'était pas assez dynamique, c'était pas assez musical. Mais moi, là, je vous donne l'intégrale de ce que j'avais écrit pour Michel Reverdy. Donc c'est une version longue, le conte qu'on va lire. Voilà, ça c'est Froide Islande, une espèce de journal de la création. Le conte, le nom sur le bout de la langue, c'est annoncé comme conte dans Froide Islande. Mais il ne faut pas forcément croire les auteurs. Est-ce que c'est vraiment un conte, ce truc-là? Bon, oui, c'est un conte. On va voir pourquoi. C'est même un très bon conte, qui est parfaitement construit, qui est haletant, qui est à la fois, et ça c'est fort, mystérieux et lumineux. On ne comprend pas trop, et en même temps on est ébloui par la clarté. On va voir que ce conte présente les caractéristiques canoniques du genre, même si elles ne sont pas faciles à cerner. Mais je vais commencer par le résumé pour les cancres qui n'auraient pas lu le livre avant de venir à l'œil. Donc, le nom sur le bout de la langue, c'est quoi? C'est Colbrune, une jeune brodeuse normande qui est éperdument amoureuse de son voisin Jeune. Bon, c'est Jorn, mais on prononce Jeune, qui est un tailleur renommé et séduisant. Elle le demande en mariage, parce que dans les contes de Quignard, les filles, même au Moyen-Âge, elles peuvent demander les hommes en mariage. Il est attiré par elle, mais il pose une condition à son accord. Il faut que Colbrune réalise une ceinture aussi richement décorée que celle que lui possède déjà. Et la brodeuse s'engage, mais échoue en secret à égaler le chef-d'œuvre. Une nuit, un étrange seigneur frappe à sa porte, lui réclamant le boire et le manger. Comme on est en Normandie, c'est du cidre et une pomme. Constatant la tristesse de Colbrune, il lui en demande la raison, qu'elle confie. Et il se trouve que le seigneur, miraculeusement, on est dans les contes, possède le double de cette ceinture, qu'il lui offre, à la seule condition qu'elle soit en mesure, un an plus tard, de lui redire son nom, et là, Quignard sort la grosse artillerie, Hide the Big the Hell. Il y a un type qui tient un blog sur Internet qui a décidé qu'il s'appelait comme ça. Je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais je trouve ça assez culotté, quoi. Bon, moi, Hide the Big the Hell, bon, quand on va voir ce que ça veut dire, Hide the Big the Hell, il faut être soit très insouciant, soit très prétentieux. Donc, Colbrune accepte, le cœur léger, la ceinture, en échange de ce souvenir du nom du Seigneur. Et puis elle s'empresse de montrer cet accessoire à Jeune, sans lui dire que c'est grâce au Seigneur qu'elle l'a récupéré. Elle lui fait croire que c'est elle qui l'a réalisé. Donc, ils se marient, ils n'ont pas tout de suite beaucoup d'enfants, ça va venir plus tard. Ils commencent par couler des jours heureux, mais alors que la date anniversaire approche, Paul Bru ne parvient pas à retrouver le fameux nom. Il lui reste sur le bout de la langue. Voilà le cœur. Donc, elle se désespère, comme très souvent chez Pignard. Il y a beaucoup, beaucoup les femmes qui se désespèrent, qui maigrissent, qui ont des cernes, qui pleurent. Elle confie son secret à Jeune, parce qu'à un moment, on a tout caché, c'est 35 kilos, il n'y a plus de mouchoir dans la maison. Et donc, elle lui dit, écoute, c'est pas grave, ça on va voir que c'est important, je t'aime, je vais chercher le nom du Seigneur. Et il part sur la route. Il part sur la route trois fois, ça c'est une formule de compte. Il retrouve son château, à Aïdebic de Hel, et il obtient du domestique la formulation du fameux nom. Mais à chaque fois qu'il revient vers la maison, ce nom lui échappe. Sauf à la troisième, où il fait un gros effort, et il revient juste à temps près de Colbrune pour lui redire « Aïdebic de Hel ». Et du coup, lorsque le Seigneur arrive, Colbrune sait le nommer, et il disparaît pour toujours, en laissant les époux à leur bonheur retrouvé. C'est un happy end, ça n'arrive jamais chez Pignard. Voilà, le résumé, en gros, c'est ça. Alors, en quoi est-ce que ça épouse le genre du conte? C'est pas facile à cerner, parce que le conte est un genre très plastique, très ancien. Le nom est souvent utilisé à tort et à travers, c'est pas la même chose que la légende, c'est pas la même chose que plein d'autres choses. Mais on peut déjà procéder par comparaison, même sans utiliser une définition. Par exemple, des motifs familiers. La pomme, pensez à Blanche-Neige, à la Bible aussi bien sûr. Mais ça, c'est pas un conte. Le fuseau de la brodeuse, qui est utilisé comme accessoire. Donc ça, c'est la Belle au bois dormant. La ceinture, qui rappelle lointainement la pantoufle de verre de Cendrillon, ou celle du valeureux petit tailleur. Tiens donc, j'en abats sept d'un coup. Voilà, ça, c'est un premier truc qui nous permet de dire, tiens, ça ressemble vraiment à un conte. C'est nos souvenirs. Ensuite, il y a cet univers merveilleux. Il y a le hasard de la deuxième ceinture. Oh, c'est quand même formidable, ce type qui vient frapper à la porte et qui a la ceinture. Ça, c'est... Si vous écrivez ça dans un roman, les éditeurs vont rire au nez, quoi. Hein, ne faites jamais ça. Et surtout, bien sûr, en termes d'univers merveilleux, la présence du diable et de sa géographie, cette espèce de château souterrain, avec les domestiques qui s'activent autour, qui astiquent le carotte. Autre chose qui nous rappelle des contes, c'est une intrigue reposant sur des défis. Et ça, ça rappelle le valeureux petit tailleur aussi. J'en abats celle d'un coup, fais-moi donc une ceinture. Ou alors, retiens donc mon nom. C'est des défis. Colbrune est confronté à deux défis. Bon, j'avance dans des choses un peu plus techniques par rapport aux caractéristiques du conte. On retrouve dans Le nom sur le bout de la langue que Vladimir Propp, dans un des gros bouquins théoriques sur la question du conte, Morphologie du conte, appelle des personnages fonctions qui disposent d'une certaine sphère d'action. Ça aussi, c'est sa terminologie à Propp. Les personnages fonctions disposant d'une certaine sphère d'action, c'est limité. Effectivement, il y a des effets de réel dans ce conte, avec la dot de mariage par exemple, où il est question d'objets très concrets, trousseau. Mais la plupart du temps, c'est un univers schématique auquel on a affaire. Les protagonistes remplissent des rôles qui sont relatifs les uns aux autres, ils n'ont pas la souplesse évolutive ou l'épaisseur des personnages de roman, ou encore plus des personnages de série aujourd'hui. Le grand truc de la série, c'est de pouvoir faire évoluer des personnages pendant des mois. Beaucoup plus que Dostoïevski. Pourtant, il a essayé, mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'avait pas la machine hollywoodienne derrière. Qu'est-ce qui est intéressant avec ces personnages? C'est pas tellement leur destin individuel, c'est l'aventure commune qui les lie. C'est ça qui présente un contenu fort. C'est pas tellement leur profil. Ils sont un peu mécaniques, ces personnages. Ça, c'est propre au conte. Les personnages du conte ont des fonctions relatives les unes aux autres. Alors c'est quoi ces fonctions? Il y a un héros, bien sûr, Bjorn Jeune. Enfin, Bjorn, c'est un nom normand, plutôt du nord, parce qu'en Normandie, il y a eu les Drakkar, les Vikings, les Pignards, alors tout ça. Mais ça se prononce Jeune, et ça il adore aussi, parce que ça renvoie à l'anorexie, que ça renvoie à une autre forme de défaillance de la bouche, qui est celle de l'appétit. Même si ce personnage a l'air très important au niveau de ce qu'il mange, il y a l'évocation de ce truc-là au passage. Mais ce qui nous intéresse le plus par rapport à sa fonction du personnage de conte, c'est qu'il est séduisant, courageux et surtout malin. Il arrive à réobtenir le nom du Seigneur en flattant les laquais. C'est un peu la figure d'Ulysse face aux dieux, qui s'en sort par ce que les Grecs appellent la métisse, l'astuce. Ulysse, c'est pas un gros baraqué, c'est pas Hector. C'est plutôt un type qui se sert de sa tête. Qui utilise son astuce. Voilà, ça c'est le premier profil de personnage. Le deuxième, l'héroïne, Colbrune, elle, c'est une menteuse, mais passionnée, dans l'amour comme dans le désespoir. Et puis le troisième, génial, Hyde the Hell. Alors, il est génial par son nom, on va voir, mais il est déjà vachement intéressant par son profil, par son rôle dans l'histoire. Pourquoi ? Parce que, pour reprendre les termes de Prof, c'est à la fois l'auxiliaire et l'agresseur. Il a un rôle complètement contradictoire. C'est à la fois celui qui favorise l'amour parce qu'il donne la ceinture, et celui qui menace de le mener au néant, cet amour. Il aide, c'est l'auxiliaire, et en même temps il menace, c'est l'agresseur. C'est l'homme ogre, c'est celui qui mange la menthe, quoi. On va voir ça, son rapport à la mort. Oui, parce que voilà, nulle part c'est écrit, mais en fait c'est le diable. C'est son nom. Oui, mais c'est pas écrit le diable. C'est écrit Hyde the de Hell. Bon, si vous n'êtes pas anglophone ou germanophone, Hell, éventuellement ça peut vous rappeler ACDC, mais pas tellement plus. Mais ça, il faut le savoir, c'est pas écrit dessus. Bon. Alors justement, Hell, bon, c'est vrai. L'enfer, bien sûr. Sous terre. Alors cet enfer, c'est quoi? Ben, d'abord, c'est le lieu sur lequel s'ouvre le conte. Ça s'ouvre pas par Il était une fois, ça s'ouvre par Où est l'enfer? Et ça, comme début, c'est vraiment, vraiment super bien trouvé. Où est l'enfer? Mais c'est quoi cet enfer? C'est pas n'importe quel diable, Hyde the Hell, c'est un diable non chrétien. Et ça, ça va être dur de s'en détacher de notre diable chrétien. C'est un diable nordique, c'est un diable germanique. Hyde en allemand, ça veut dire païen. Bon, il n'y a pas plus clair. Hein. Kinner nous dit, mon diable, il n'est pas dans la Bible. Et Bic, donc, j'ai pas trouvé en allemand. Chou blanc, c'est entre biblisch et bidet, ce qui est déjà drôle. Mais moi, j'entends bouc. Bouc, la bic, le bouc. Donc, le diable. C'est un diable, diable. Donc, si je récapitule, Hyde Bic de Hell égale bouc païen de l'enfer. Autrement dit, je vous conseille de ne pas croiser. Voilà pour les personnages. Alors reste à déterminer quel type de conte. Là, on s'est approché petit à petit en disant bon, ça ressemble vraiment à un conte, mais quoi comme conte? Parce que des contes, il y en a plein. Cruel, fantastique, merveilleux, pour enfants. Il y a même un film qui s'appelle Les contes de la lune vague après la pluie. Donc est-ce que c'est un conte de la lune vague après la pluie? Non. On pourrait croire à un conte moral. Ça, c'est une des grandes fonctions du conte. Ça occupe des tas d'éditeurs. Ça occupe beaucoup Bruno Bettelheim aussi, qui a proposé une psychanalyse des contes de fées, où il nous dit. Les contes aident les enfants à mûrir, c'est-à-dire à intérioriser les lois sociales. Le chaperon rouge, ça consiste à dire aux petites filles, méfiez-vous, méfiez-vous. Alors, ouais, on va y venir à cette question de la morale. Ça se présente apparemment comme un conte moral, pourquoi? Parce que Colbrune ment. Donc on pourrait se dire, en quoi ça consiste, non, sur le bout de la langue, ça consiste à dire, Colbrune, c'est pas bien de mentir. Parce qu'après, tu es obligé d'envoyer ton chéri chercher le nom du Seigneur et tu risques de faire perdre ton amour, etc., etc. Or, cette piste tourne court, il ne s'agit pas d'un conte pour enfants, ou pas seulement, je n'en veux pas à Colbrune d'avoir tué le don de la ceinture, il est quand même, c'est lui le Seigneur, en fait, hein. Il est vraiment classe, quoi. Il lui en veut pas, il lui dit, je vais courir, il pardonne, je vais courir après David de Hell, et de toute façon, Quignard, c'est beaucoup plus un aristocrate anarchiste qu'un flic camouflé en Père Noël. Comme le sont bien des narrateurs de contes pour enfants. C'est un conte amoral. Bon, ça, c'est une manière négative de le définir. On va essayer de le définir positivement tout à l'heure, mais en effet, c'est un conte amoral. Quignard, il ne s'intéresse pas aux lois sociales, ou au contraire, pour les fuir. Je vous disais, il a fui la société dès qu'il a pu, dès qu'il a été riche. Il avait des fonctions sociales très éminentes chez Gallimard. Il a fondé le Festival des Arts Florissants sous le patronage de François Mitterrand avec Jordi Savall à Versailles. Bon, et tout ça, il s'en va. Il n'aime pas la société qu'il y a. Il la fuit et il la fait fuir. Au sens de la fuite dans le système de chauffage. Il cherche les fuites. Il cherche à favoriser les fuites. Il cherche à libérer une énorme énergie vitale plutôt qu'à la contraindre avec des lois sociales. À coup de loup et de charbon rouge. Mais il nous reste à comprendre de quelle énergie il s'agit. Ça, ce sera pour ma deuxième partie. Il faut encore que je vous parle du petit traité sur Méduse d'abord. Colbrune, j'ai pas trouvé. Honnêtement, j'ai pas trouvé. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors, il y a le motif de la chevelure, brune. Bon, elle est très sensuelle, c'est vrai. Brune, bon, je pense pas qu'on puisse y prêter des penchants fascistes. Non, honnêtement, Paul Brune, ça m'échappe. C'est un nom bizarre. C'est un nom bizarre. J'ai pas de clé là-dessus. D'ailleurs, il se plante, hein, Tignard, il fait le malin avec l'érudition. Oui, c'était à l'époque de Louis le Bec. Et ensuite, il y eut Charlemagne. C'est pas vrai, hein, je suis allé vérifier. Charlemagne, c'était avant. Hein. Par contre, Louis le Bec, évidemment, ça l'intéresse. Le nom sur le bout de la langue. Carloman aussi. Alors, quel est le pitch du conte? Si on veut essayer d'avancer un petit peu sur ce conte avant que j'en vienne au traité. Le pitch, donc, c'est, vous savez, c'est le truc hollywoodien. On résume en une phrase toute la saison 5 des Sopranos. C'est quoi le pitch? Retrouver un nom oublié, ça sauve la vie, ça sauve l'amour. Puisque c'est la double menace qui pèse sur Colbrune d'un coup, être enlevée à son mari et par le seigneur de la mort. Elle n'est pas juste enlevée par un type qui passait par là. C'est la mort. C'est pas juste la fin de l'amour, c'est aussi la fin de la vie. Donc, retrouver un nom oublié, ça sauve la vie, ça sauve l'amour. Alors, à partir de là, il y a des questions qui s'ouvrent. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Est-ce que le bonheur, ce serait de maîtriser le langage? Est-ce que l'enfer, ce serait de le perdre? Ben là-dessus, en fait, le conte reste ambigu. C'est intéressant, d'ailleurs. C'est peut-être plus ouvert que ce que nous dira le traité ensuite. En tout cas, le traité va clarifier la position de Quignard par rapport à ce qu'est le bonheur. Pourquoi est-ce que retrouver un nom, ça sauve la vie? Ça va nous aider à définir de quel conte il s'agit, de quel type de conte. Mais on peut dire déjà que le bonheur n'est pas tellement dans la maîtrise dans ce conte, dans la maîtrise du langage. Il est dans le retour du langage après la défaillance. Il est dans le passage par la défaillance avant le retour du langage. Là, je fais de la description. Pour l'instant, je n'interprète pas. Bon, troisième partie, je continue mon descriptif un peu bête, là. Petit traité sur Méduse. Où, en fait, Méduse n'est pas le plus opaque du titre. Méduse, bon, bah, voilà, c'est un personnage répertorié, on va voir. Ce qui me semble plus complexe, c'est qu'est-ce qu'un traité et pourquoi petit? C'est pas juste une question de taille. Le traité, c'est une forme un peu désuète, un peu has-been. Aujourd'hui, quand vous écrivez traité et que vous envoyez ça à un éditeur, c'est mal parti. Un traité, on l'a oublié, mais c'est tractatus, quoi. C'est, bon, c'est la même origine que tractation. Il y a l'idée d'échange et de comptabilité. Et on va voir que c'est un ouvrage pédagogique qui est censé exposer l'intégralité d'un sujet. Ça a une prétention exhaustive, le traité. Tout sur truc. Conséquence, un traité, c'est souvent gros. Quand on veut tout dire, il faut du volume. Donc, petit traité, c'est un oxymoron. Comment est-ce qu'on peut écrire un petit traité? Bon, se méfier également de cet adjectif qui est aujourd'hui miné. On est entouré de machins, de bouquins qui s'appellent petit traité sur truc. Petit éloge de la peau, de la beauté, de la cuisine, de mon voisin. Bon, là, petit, dans cette circonstance-là, ça veut dire mignon. Et ça, Quignard, ça l'intéresse pas du tout. Petit traité sur Méduse, de toute façon, c'est difficile de faire quelque chose de mignon. Méduse, c'est une créature hurlante, qui pétrifie ses adversaires. Bon. S'il voulait s'engager dans un petit éloge de Méduse, je ne sais pas comment il s'y prend. Donc le petit Quignard, c'est pas ça. C'est un petit à la fois modeste et absolu, ultra prétentieux. Pourquoi? Parce que l'écriture de Quignard autorise à être plus qu'exhaustif tout en écrivant peu. Il arrive à remplir les fonctions du traité, tout dire, et même dire plus que tout. On va voir comment. Tout en écrivant très peu. Ça, c'est une entrée intéressante par rapport à son écriture, parce que ça va permettre de circonscrire des outils d'écriture spécifiques à Quignard et très intéressants. C'est quoi ces outils? Il y en a trois, au moins. D'abord, la densité. Quignard a une écriture dense, notamment par la pratique de l'aphorisme, qui est un héritage direct de La Rochefoucauld. Il dit La Rochefoucauld, c'est mon auteur préféré. Il est clair là-dessus. La Rochefoucauld, l'inventeur du livre d'aphorisme, c'est un de ses auteurs favoris. Il a écrit également un bouquin sur La Bruyère, qui est un autre auteur de l'aphorisme, un autre auteur de la forme brève, circonscrite, lapidaire. Ce bouquin de Quignard sur La Bruyère s'appelle Une gêne technique à l'égard des fragments. La notion de fragment définissant un type de texte, hein, aussi bien que le roman, le théâtre, la poésie, il y a les fragments. Les pensées de Pascal, par exemple, c'est des fragments. Tout un pan de la poésie du XXe siècle qui travaille dans ce sens du fragment, des écrits morcelés. Allez voir, par exemple, du côté de René Char, le grand auteur du fragment, peut-être. Donc, l'aphorisme, c'est très pratique quand on veut tout dire en très peu de lignes, puisque c'est le maximum de sens avec le minimum de moyens. Vous voyez, page 90, les pères transmettent le nom, les mères transmettent le hurlement. Bon, là, vous plongez dans toute l'histoire de l'humanité, depuis qu'il y a du langage, avec deux phrases. En plus, il y a un parallélisme, transmettre, bon, voilà. Pratique dense de l'écriture par l'aphorisme, mais aussi par les définitions. Quignard adore les définitions. Il avait un grand-père grammairien, qui l'a beaucoup influencé. Il a un côté dictionnaire, Quignard. Il balance de la définition. C'est un de ses modes d'écriture. C'est pas le plus agréable, à mon sens, d'ailleurs. C'est là qu'il peut être vraiment fortifiant. Tout mot retrouvé est une merveille. Ça, c'est une définition, en fait. La définition du mot retrouvé. C'est quoi un mot retrouvé? C'est une merveille. Tous ceux qui parlent éteignent la lumière. C'est une phrase, en fait, pas si lumineuse que ça. Elle se donne comme une définition. Et en disant ça, surtout si c'est un peu mystérieux, on a l'impression qu'il dit vraiment plein de choses. Plus généralement, il recherche dans la rhétorique, dans les outils de langage, tout ce qui permet de se rapprocher de cet idéal qu'il formule lui-même, de la phrase qui tue. Il dit, la définition de la rhétorique, c'est quoi? C'est agenouiller l'auditoire avec le langage. Et plus précisément, ajoute-t-il, c'est déjà pas mal, hein, vous imaginez, agenouiller l'auditoire, et ensuite, la phrase qui tue. C'est déjà une phrase construite rhétoriquement. On va lire une très belle phrase qui tue tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, ce qu'il cherche, c'est ça, Quignard. Il cherche tous les outils qui lui permettent d'écrire des phrases qui tuent. Donc des phrases qui nous stupéfient. Avec peu, on dit beaucoup, et même énormément. On assaille. Premier outil, donc, pour faire un traité qui soit petit, la densité. Deuxième outil, la variété. Ce traité n'est pas seulement théorique, il contient des citations, des étymologies, du matériau autobiographique, des récits comme le mythe de Méduse ou l'histoire très ramassée de Mélusine qu'on a vu tout à l'heure. Et il y a aussi des dérives poétiques qui permettent à la théorie, à l'autobiographie, au récit de se faire écho d'une phrase à l'autre. C'est-à-dire que c'est pas seulement varié, juxtaposé, c'est varié et en plus les trucs se fondent les uns dans les autres. L'autobiographie débouche sur le truc théorique. Le conte débouche sur de l'autobiographie, etc., etc. Regardez un petit bout, page 80-81, le début de la troisième partie du traité. C'est ce qu'on appelle l'arrêt sur image, c'est le moment, c'est le mot erré quand il devient immobile. C'est le temps que la faillite du langage suspend. C'est quand le film devient photo. Aristote dit que chez l'homme, la partie comprise entre les cheveux et le cou s'appelle prosopone, c'est-à-dire ce qui se présente de soi au regard d'autrui. Parce que l'homme est le seul animal qui se tienne droit, ajoute Aristote. Qui regarde de face, qui émette sa voix en face, il est le seul à avoir un visage. Il se trouve que Méduse est l'unique déesse dont le masque est celui de la face humaine. Le masque de Méduse est la face humaine féminine, vue de face, bouche grande ouverte. C'est la face de la mort dans le hurlement de terreur. Le masque à face humaine hurle pour ne pas rejoindre la tête creuse, la tête désertée du regard, immobile, écharnée, silencieuse, des têtes sans visage. Les têtes sans visage, ce sont les morts. Phrase qui tue, littéralement. Bon, c'est très dense, là, si vous débarquez là-dedans, vous ne comprenez pas grand-chose, mais ce que vous pouvez déjà remarquer, même si vous ne comprenez pas, c'est qu'on passe d'une étymologie latine à la photo de film, à Aristote, à Méduse. Donc il y a des plans très différents de discours qui s'articulent. Ça aussi, ça permet d'écrire peu et de dire beaucoup. Voilà, troisième outil absolument crucial et qu'on pourrait... raté en disant Quignard pour faire un petit traité, pour dire beaucoup en écrivant un peu, le blanc. Le blanc. Donc je ne fais pas allusion au solde qui se termine là, je fais allusion avec les pauses et les astérisques. La densité et l'érudition vont de pair chez Quignard avec des pauses permanentes. Le maximum de sens alterne avec le maximum de vide. On a les pères transmettent le nom. Les femmes transmettent le hurlement, blanc, astérisque, blanc, et puis on bascule sur autre chose. Et ce blanc, il ne faut pas le prendre à la légère. Je ne pense pas que Quignard même verrait dans ces blancs un outil pour laisser digérer les aphorismes, une espèce de pause interprétative. Je ne pense pas que c'est le contraire, en fait. C'est-à-dire, et là on va vers l'interprétation profonde du conte, à mon sens c'est plutôt du vide sans langage qu'il tire la force d'un langage qui tue. Son langage qui tue, il tue parce qu'il sort du vide. Donc les pauses sont peut-être avant le langage et pas tellement après. Vous voyez ? Je crois que c'est le sens dans lequel il faut lire finir. Le maximum de nos langages, c'est une zone de recharge pour élaborer son contraire, le langage qui tue. Bon, là, on se rapproche du sens profond du conte. On va y revenir, hein, assez blanc. Donc, par ces trois traits, la densité, la variété, le blanc, Quignard est plus qu'exhaustif sur Méduse. Il rejoint les obligations du traité de façon souveraine, parce qu'il est dense, parce qu'il est varié, mais peut-être et surtout aussi parce qu'il se tait. Pourquoi est-ce que ça lui permet de dire Méduse au mieux? Parce que Méduse, c'est une créature pétrifiante. Elle transforme tous ceux qui croient son regard en statue. Et l'astuce de Persée, donc ça c'est ce qu'il vous raconte au milieu du traité, pour tuer Méduse, c'est de lui renvoyer son propre regard en polissant son bouclier. Comme la Psyché de Manon. Donc, la pétrification, c'est l'expérience de celui qui cherche ses mots dans le domaine particulier du langage. On est pétrifié au moment où on... Vous voyez, il n'y a plus que les doigts qui peuvent bouger, la langue. C'est une expérience de pétrification. Voilà pourquoi ça rattache Méduse au conte. Mais c'est aussi l'expérience de celui qui lit Quignard, pétrifié par la violence des énoncés, dense, suivi de vide. Un peu comme ces machines sur les fêtes foraines descendent 30 mètres d'un coup. Vous voyez, une expérience de dénivelé très forte. Ce traité sur Méduse, en d'autres termes, c'est un traité médusant. Et c'est pour ça qu'il est complet sur Méduse. Quignard ne cesse de faire l'expérience de jeûne qui, revenant du Hell, avec le nom du Seigneur, va le perdre. Il trouve ses mots et puis il les perd dans les blancs. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des trois genres du texte. Froid d'Islande, un journal, un conte, le nom sur le bout de la langue, et puis petit traité sur Méduse. Et une fois qu'on les a identifiés, ces trois genres, qu'on a vu un peu quelles étaient leurs caractéristiques, on constate en fait qu'ils ne sont pas si hétéroclites. Ils ont leurs caractéristiques propres, mais ils partagent aussi certaines de leurs caractéristiques. Par exemple, les frontières sont poreuses entre le journal du début et les récits qui vont suivre. C'est déjà un récit. C'est pas un journal où c'est écrit mardi 12 juillet, je dîne avec Michel Robert. C'est écrit le mardi 12 juillet, je dînais chez Michel Robert. Boulez, visa. Donc c'est du prétérique, c'est du récit. On est déjà dans le récit. Et ça, c'est pas une caractéristique du journal en fait. C'est une déviation par rapport au journal. Un journal, ça écrit le 12 juillet, il pleut. Ou alors, comme dit Louis XVI, le 14 juillet, rien. Beautiful loser. Donc voilà, il y a déjà du récit dans le journal, c'est déjà un peu du traité, puisqu'au bout de la deuxième page, Quignard ne peut pas s'empêcher, il nous dit « Oui, alors la glace au café, vous comprenez, quand elle échappe, ça renvoie à mon expérience d'enfant, ou moi j'ai perdu le langage, d'ailleurs, toute écriture, c'est perdre le langage, blablabla. » Et au bout, on a à peine commencé à lire son journal qu'on est déjà dans des trucs théoriques. Donc on est déjà dans des petits bouts de traité. À l'autre bout, le traité, il est constellé de récits. D'ailleurs, il y a des contes, il y a Mélusine. Et puis, il y a du matériau autobiographique qui n'a rien à faire dans un traité. Et qui est déjà du récit. Le récit de soi. Le genre de récit qui pourrait figurer dans un journal. Comme le journal du début. Ce qu'on se dit à partir de là, c'est que Quignard aurait très bien pu aller plus loin. Il aurait pu tout mélanger en un seul et même bloc de glace, au café. Et pas faire ces trois parties, là. Froid d'Islande. Il aurait pu truffer son conte des bouts du reste. Par moments, il le fait, dans d'autres livres. Comme fait Céline Dunard. D'un bloc de glace. Mais Quignard, ça l'intéresse que, justement, le bloc de glace échappe. Qui est du discontinu, qui est du blanc. Parce que le blanc du texte qu'on a repéré là à l'échelle des paragraphes, on le retrouve entre les parties du nom sur le bout de la langue. Il n'y a pas d'astérisque, il y a des titres pour séparer. Mais il y a du blanc. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas un seul bloc? Parce que ce qu'il a à dire relève du non-dire. C'est ça qu'il va falloir approcher maintenant. De l'indicible, du trop grand pour la langue. Et avant même d'essayer de cerner ce que c'est, ce trop grand pour la langue, de déterminer enfin l'objet du livre, parce que là, ça fait déjà un moment que je parle, on peut déjà qualifier le type du livre. En effet, pour moi, quand la langue s'affronte à un indicible trop grand, c'est qu'on a affaire à de la littérature mystique. Même si ici, il n'y a pas de Dieu qui vaille. Ça, c'est l'autre spécificité de Kinnaird. Voilà ce que je vous propose donc comme deuxième approche, après mon descriptif un peu paraphrastique, là. La littérature, selon Kinnaird, c'est quoi? C'est mystique et c'est athée. En même temps. Athée. Pas raté, non. Athée. Je vais repartir d'un aspect du traité que j'ai volontairement minoré jusqu'à présent, je l'ai dit vite tout à l'heure. Un traité en enfant pédagogique, un traité c'est pédagogique. Un traité c'est censé transmettre un savoir. Un traité c'est un prof dans un livre. Or, il se trouve que les contes peuvent avoir la même fonction. Les contes c'est bien souvent des traités pour enfants. C'est pas juste moral, ça peut transmettre un savoir. Des tas de savoirs, des tas de catégories. Et il me semble que le nom sur le bout de la langue, c'est un livre de transmission. Kinnaird veut nous transmettre quelque chose. Mais ce n'est pas un pédagogue de la clarté. Non pas qu'il soit confus, mais parce que ce qui l'intéresse, c'est des secrets. Je crois que dans ce bouquin, il nous transmet un secret. Il parle de secret d'ailleurs. Hein. Au moment où il dit « Le conte renvoie une expérience que j'ai faite à 16 ans, mais je ne vous dirai pas laquelle. » Kinnaird s'intéresse au secret, il s'intéresse à tout un savoir du vide, du silence, qui suppose des trous, des détours, ou alors une langue indirecte, comme la fiction. La fiction, ça ne nous dit pas, pour réparer votre vélo, prenez une rustine, une bassine, regardez où il trouve, hein, ça nous dit, ce jour-là, il prit son vélo, il y eut un clou sur la route, ça c'est le pire de la fiction, hein, mais ça fait au moins ça la fiction. Ça utilise un peu de passé simple, un personnage. C'est indirect. Il faut encore que je vous explique trois trucs pour identifier le secret de Kinnaird. Il faut qu'on détourne trois faux amis qui nous bouchent la vue, qui nous empêchent de comprendre le secret de Kinnaird à première lecture. En tout cas, moi, c'est la démarche que j'ai dû faire. À mon sens, il y a trois faux amis dans ce bouquin. C'est l'enfer. J'en ai déjà un peu parlé. Il faut que j'y revienne. Le retour, qui est à la fois le retour de jeûne à la maison, mais aussi le retour de la langue, quand le langage revient. Le retour. Et, ça c'est le plus intéressant, la mère. La mère avec un E à la fin. La maman. Il faut qu'on comprenne le personnage de la mère dans Kinnaird. Sinon, on ne voit pas clair. Les deux premiers faux amis sont dans le conte et dans le traité. Et le troisième, la mère, il est uniquement dans le traité. C'est pour ça que le traité est précieux pour comprendre le conte. Alors, l'enfer. L'environnement du conte qui est planté d'emblée se situe hors du règne absolu du christianisme. Ce qui intéresse Kinnaird avec sa Normandie, qui est d'ailleurs sa Normandie natale, hein, de là, c'est que c'est christiano-viking. Il dit voilà, il y a ceux qui croyaient à l'an 1000, il y a ceux qui n'y croyaient pas au début du conte. Et son héros, il s'appelle Jorm. Il ne s'appelle pas Christian. Heide Bidehel est Heide, il est païen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfer du conte exclut cette invention, qui est d'ailleurs tardive dans le christianisme, d'un enfer comme lieu de punition. On a vu que ce n'était pas un conte moral. Kolbrune ne sera pas punie si elle ne se souvient pas du nom. Elle va, entre guillemets, juste mourir. L'enfer de Kinnaird, dans ce conte, c'est la mort. C'est tout. Ça ressemble beaucoup à l'enfer des Juifs, plus qu'à l'enfer des chrétiens. Pourquoi est-ce que Kinnaird s'intéresse à ce type d'enfer? Parce que ça devient l'image, quand il se transforme en essayiste, quand il n'est plus narrateur, ça devient l'image de tout le domaine de la pulsion de mort. Il est question de Freud, hein, dans le traité, Kinnaird connaît très très bien Freud. Dès l'introduction, il est question d'un auteur normand qui s'appelle Huet, qui aurait écrit bien avant l'heure une autobiographie freudienne, cruelle et freudienne. Bon, il connaît très bien Freud. Donc la pulsion de mort, ça l'intéresse. Même dans la vie. Kinnaird s'intéresse beaucoup à tout ce qui est dépression, mutisme, anorexie, etc. Ça, c'est l'enfer. Même quand on meurt pas, même quand on est en vie, on peut être en enfer. Je pense que ça fait écho. Donc dans ce conte, il y a un diable, il n'y a pas de Dieu. Et dans le bouquin, il n'y a pas vraiment de Dieu. Il est question de Dieu à la fin, mais c'est pour des raisons très spéciales. Il y a un enfer, mais pas de paradis. Le bonheur, dans le conte, il est terrestre. C'est l'amour, à la fin. Et le désir, au début. Et la descendance finale, entre l'amour et le désir. Ils eurent beaucoup d'enfants. Ça termine quand même comme ça. Parce que les enfants, c'est important pour Quignard. L'enfance, c'est important. Donc l'univers de Quignard, il peut y avoir du diable, mais pas de Dieu, c'est radicalement athée. C'est une des choses qu'il était venu dire ici. Et c'est une des raisons pour lesquelles il s'est pris de l'huile de vidange. Dieu est évoqué en fin de traité. Il y a des citations de Paul de Tars, il y a des citations de l'Ancien Testament, mais c'est un pur symbole de la lumière, du jugement et de la loi. C'est parce que Quignard a besoin de parler de ça à ce moment-là. Il a besoin de parler de lumière, de jugement, de loi. Et il trouve que Dieu, c'est un bon symbole pour parler de tout ça. Il peut se servir de ce symbole sans le prendre pour un être. Ça, c'est la distance que garde Quignard. Et pourtant, et c'est là l'une des profondes spécificités de Quignard, il peut y avoir une mystique. Ça, c'est vraiment, vraiment original. Alors, dans quoi se perd-on, puisque la mystique, c'est la perte et la tentative de la dire, en tout cas, moi, c'est comme ça. Dans quoi se perd-on, si ce n'est dans Dieu ? Il faut comprendre la notion de retour avant que je puisse vous répondre. Vous savez, c'était mon deuxième faux ami. Mais vous voyez qu'à l'horizon, c'est la maman qui va nous donner la réponse. Le nom sur le bout de la langue confronte à l'expérience du retour, le retour du langage. On avait perdu quelque chose qui revient, un nom, c'est-à-dire le langage. Mais, c'est ça qu'il faut comprendre, ce retour n'est pas le retour du même. C'est pas une récupération de la même chose que ce qu'on avait perdu. Ça, c'est ce que dit Deleuze à propos de l'éternel retour de Nietzsche. Il dit, il ne faut surtout pas croire que l'éternel retour, c'est le retour du même. Sinon, on ne comprend rien à l'éternel retour. Qu'est-ce qui arrive au personnage quand le langage revient? Pourquoi est-ce qu'ils sont si joyeux? Quand vous perdez vos clés, vous les retrouvez, bien sûr, vous êtes content. Mais c'est une expérience différente, quand même, qu'ils font. Les mêmes clés, plus la joie. Voilà, c'est les mêmes clés. Qu'est-ce qui se passe? Quand le langage revient à Jeune et à Colbrune, il est entièrement modifié parce qu'il est passé par son contraire, par le silence. Ça, c'est la première chose. Et qu'il s'est chargé de la force du silence. Voilà ce qui se passe. Il revient à la fois langage et non-langage en même temps. C'est pas juste le langage qui revient, c'est le langage et son contraire. C'est le langage chargé de son contraire. Et pourquoi est-ce que le silence, c'est si fort? Pourquoi est-ce que retrouver un nom, ça permet de sauver la vie? Pourquoi est-ce que ce langage chargé du non-langage, c'est la vie? Ben c'est là qu'il faut comprendre le personnage de la mère. Donc merci le traité sur Méduse, qui pourrait aussi bien s'appeler traité sur maman. La recherche du temps perdu, c'est ça aussi. Hein. Merci maman, oh maman merci, merci merci maman merci. Sauf que c'est pas du tout la même mère. Quignard se livre à des confidences d'une surprenante intimité dans le traité. Très peu d'auteurs qui osent, surtout les hommes, qui osent nous avouer des trucs pareils sur leur rapport à leur mère. Alors, c'est d'abord le premier modèle de celle qui cherche ses mots, la mère. Bon, ça, c'est important, parce que c'est de ça dont il se souvient quand il invente son conte pour Michel Reverdy. Mais c'est surtout, ça ressemble pour l'instant à la doxa psychanalytique, ce que Quignard a perdu. La maman, c'est le perdu. C'est la fusion perdue. Et là, il y a un très beau mot allemand que j'ai découvert cette semaine en préparant Quignard. C'est un autre miracle. Mutterseelen allein. Alors, c'est un mot qui a une histoire géniale. Je vais devoir aller très très vite. Mais ça veut dire tout seul, sans maman, sans âme. C'est vraiment la loose. Hein. C'est vraiment quand on a les bouts. Mutterseelen allein. Ça veut dire, voilà, je suis tout seul sans ma maman. Et c'est un mot qui a été créé par des Allemands qui entendaient parler des Français, des protestants, qui s'étaient réfugiés à Berlin et qui disaient « Je suis moi tout seul ». Et qui, pour que les Allemands commencent à les comprendre un peu, ont dit « Je suis moi tout seul, allein ». Allein, ça veut dire seul. Et les Allemands qui tendaient l'oreille ont compris « Mutterseelen allein ». Donc ils ont transformé « moi tout seul, allein » en Mutjazelene Line. 120 ans. Donc ça pourrait nous tirer des larmes de compassion si on en était à cette vision de la maman comme la douceur, le fromage blanc. La maman freudienne, ou du moins de la doxa freudienne. Dans Freud, c'est plus compliqué en fait. C'est justement sur le contenu de la perte que Tignard est génial, qu'il ouvre une porte immense. La maman, c'est pas la douceur. Donc quand on perd la mère, c'est pas la douceur qu'on perd. La mère, c'est le réel d'avant le langage, et ce réel n'est pas doux, au contraire, il est sauvage. Ça, c'est génial d'être allé chercher ce truc-là. Il y a deux passages cruciaux, vraiment, si vous deviez repartir avec des choses aujourd'hui, j'aimerais bien que ce soit ça, qui nous expliquent, ça, j'ai mis du temps à comprendre. Mais bon, ça finit par venir. Regardez page 67. Là, il y a trois mots, mais il faut s'accrocher des fois à 3-4 mots, quoi. Page 76. Donc, il nous parle des gens qui se mettent à parler avec beaucoup d'adjectifs. Bon, voilà. Mais ce qu'il dit, c'est, qui est important, c'est après. Il dit que c'est cette multiplication d'adjectifs, c'est le symptôme qui trahit la part maternelle. Et là, ouvrons grand mes oreilles. Qui signale la nostalgie du réel d'avant le langage. Première chose, pour Quignard, il y a un réel avant le langage. C'est pas le langage qui crée le réel. Il y a un réel de l'expérience enfantine, au sens littéral, infance, celui qui ne parle pas. Il y a du réel là-dedans. C'est pas du flou, c'est pas une espèce de préparation à la vie réelle, avant qu'on parle. Il y a du réel là-dedans. Bon, ça c'est déjà important. Il y a une expérience qu'on fait avec la mère, qui est du réel, du très très réel, avant le langage. Et ça s'articule avec un passage qui se trouve page 100. Voilà la phrase qui tue. Pour moi, c'est là qu'est le cœur du bouquin. Page 100. La phrase qui commence par « Celui qui écrit blablabla ». Bon, je vous la lis parce que c'est là, c'est vraiment du super classe, quoi. « Celui qui écrit plonge dans le mot absent pour retrouver quelque chose qui ignore le langage. » Donc la part maternelle, c'est ça. Okay. Et qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? Attention, là, ça dégouline. Qui n'est ni bon ni beau, qui terrifie le langage et passionne les jours, qui attaque pour attaquer, qui n'est pas dans ce qui est, qui fraye et qui effraie, qui dérange les morts qui sont dans les enfers, qui rompt avec l'ordre qui lui préexiste, qui rompt avec les vivants qui lui coexistent, qui vit pour vivre. Voilà. Voilà ce qui se passe avec maman. C'est pas la douceur. C'est la sauvagerie. Qu'est-ce que c'est la sauvagerie? C'est pas l'inverse de la civilisation ou de la douceur. La sauvagerie, c'est vivre pour vivre. Ce qui vit pour vivre, c'est ça la sauvagerie. C'est avant la société, avant la morale, avant la honte, avant la pudeur, avant le langage. Vivre pour vivre. C'est exactement l'expérience que fait ma fille en ce moment. Et c'est quand même troublant que je doive vous parler de Quignard au moment où je déboule avec ce petit être qu'on est là, qui est à cette étape-là, qui est un petit sauvage. Voilà le sauvage, ce qui vit pour vivre. Donc ça, c'est ça qu'on vit dans l'enfance. C'est ça, dans l'infance. Et c'est cet état-là, ultra intense, que Quignard, lui, a fait cette expérience très particulière de revivre deux fois. Il a été nourrisson. Ensuite, il a perdu le langage à 18 mois, il a commencé à parler. Puis il nous raconte tout ça, hein, je ne fais que gloser. Hein. Il avait une gouvernante qui l'élevait, qui s'appelait Mouti, parce qu'elle était allemande, tiens, Mutjazelene, et elle est partie parce qu'ils ont déménagé. C'est lui qui est parti, en fait. Et il est devenu muet. Bon, il revient à l'étape d'avant. 18 mois. Ensuite, à 16 ans, et là, il nous dit, oui, à 16 ans, j'ai fait une expérience, que rapporte le compte, mais je ne vous dis pas laquelle, c'est mon secret. En tout cas, il est redevenu mutique. Mutique. Il dit, voilà, Mouti est parti, je suis devenu mutique. Ça, c'est un peu freudien, mais c'est vraiment pas mal, quand même. Ça, c'est la spécificité existentielle de Quignard, et c'est à partir de cette spécificité existentielle, de cette expérience, qu'il entre en littérature. Pourquoi? Parce que c'est cet état sauvage d'avant la langue qu'il a vécu donc trois fois, comme les trois parties du conte du bouquin, je veux dire. C'est cet état qu'il ne veut pas trahir. C'est là qu'il veut rester perdu. C'est là qu'il veut rester en extase mystique, comme Jean de la Croix en Dieu, ou comme Perceval dans la neige avec le sang. La vocation littéraire de Quignard, elle vient de là. parce que seule la littérature peut trouver la langue de l'époque sans langue. Ça, c'est balèze. Une langue qui est à la fois foudroyante et vide. Les hommes transmettent le nom, les femmes le hurlement. Pouf, rideau. Sinon, nous dit Quignard, on peut aussi faire de la musique. Ça, c'est l'autre solution. Et ces bouquins sont hantés par la musique. Il y a de la musique partout, la haine de la musique, la leçon de musique, tous les matins du monde. Il est lui-même violoncelliste. Pour Quignard, le langage, c'est d'abord un mécanisme de contrôle social de l'individu, de ses forces primitives. C'est mettre les forces primitives dans un carcan. C'est d'abord ça, le langage. Mais il existe une époque de nos vies sans langage, qui est une époque de pur bonheur, de pure énergie. Et la littérature, c'est un type de langage opposé au premier, qui est capable de véhiculer l'énergie sauvage d'avant le langage. C'est ça la prouesse littéraire. C'est pas de bien parler. C'est pas les belles lettres. Mais l'ambiguïté de Quignard, elle est là, mais ça vient d'une certaine façon pimenter son approche. C'est-à-dire, ça reste un snob, c'est un type qui aime les belles formules, c'est entendu, d'accord. C'est vrai. Il s'intéresse au perdu. C'est le sens de ce qu'il a dit au micro d'Alain Weinstein dans cette émission géniale, Surpris par la nuit, sur France Culture, et sur lequel je vais laisser mon explication. Je voudrais juste vous dire, voilà, ce conte, en clair, c'est un conte ésotérique et mystique, et qu'on comprend maintenant pourquoi retrouver un nom sauve la vie, parce que la vie, elle est muette, et que le moment des retrouvailles avec le langage porte encore en lui cette vie muette par laquelle il vient de passer. C'est ça qui sauve la vie. C'est que la vie trouve à s'exprimer verbalement en littérature, alors qu'elle est non-verbale par définition. Donc Quignard, c'est pas un passéiste, c'est pas un régressif, ce qui l'intéresse, c'est pas le passé tel qu'il est devenu inaccessible, c'est pas un refuge dans l'irréel d'avant, c'est un présent chargé de la force du passé. Pensez à cette très belle image qui a deux incarnations dans le Bukinia, la chaleur de la ceinture de jeu dans les mains de Colbrune. Sans compte. Il me dit Colbrune rougit de sentir la chaleur du corps de jeu sur la ceinture qui lui tend. Ça, c'est le passé tel qu'il rayonne. Tel qu'il rayonne encore. La ceinture n'est plus contre le corps, mais elle porte la chaleur du corps. Et on trouve exactement la même image dans Tous les matins du monde, le tube de Quignard, où Monsieur de Sainte-Colombe s'adresse à sa femme défunte, son fantôme, et lui dit « 12 ans ont passé, mais les draps de notre lit ne sont pas encore froids. » C'est la même image. Et c'est ça. C'est la vie passée, récupérée, dans sa présence. La chaleur est encore là. La chaleur du corps est encore là, dans les draps. La littérature, c'est les draps, ou c'est la ceinture. Il y a encore la chaleur des corps. Je vous laisse là-dessus, parce que c'est une ouverture à toute l'œuvre de Quignard, et ce qui m'intéresse, c'est qu'après avoir lu celle-ci, vous puissiez lire d'autres œuvres. Le point auquel on accède là, c'est le point qui sépare ce que Quignard appelle le jadis et le passé. L'un de ses derniers livres s'appelle « Sur le jadis », et c'est pour moi une... peut-être la clé d'entrée, mais elle est strictement théorique, c'est pour ça que je ne voulais pas travailler sur celui-là, c'est la clé d'entrée pour toute l'œuvre de Quignard. Donc maintenant, si vous voulez aller lire du Quignard, vous aurez cette entrée. Le jadis, qu'est-ce que c'est, dans son opposition au passé? Voilà donc ce que Quignard dit au micro d'Alain Weinstein le 15 octobre 2007, après son passage au banquet, donc. Le jadis par rapport au passé, c'est ce surgir incessant d'une origine en tout. Et il est possible, pourquoi pas, qu'à force de retirer la lave desséchée des oripeaux, qu'en vieillissant, on puisse appartenir à une luisance plus neuve et que le dernier regard, comme disent les Japonais, le regard de l'adieu, soit aussi le regard le plus neuf, le plus contemporain de ce qui surgit au fond de la terre et au fond du ciel. Le jadis est un surgir pur. C'est l'explosion céleste. Le Big Bang ne cesse de se reproduire. C'est être directement en prise avec ce présent absolu. C'est un instant absolu. Tout le reste, tout le passé, toute la réaction de tous les conservatismes sont des choses qui sont faites pour étouffer ce mouvement de surgir.